Donc, en gros, depuis quelques années, nous réfléchissons avec les autres organisateurs. Donc, Félix Blanc qui est là-bas, Marie-Hélène Wirt et Cynthia Saloum, à la manière d'aborder les phénomènes politiques. Et tout chercheur se trouve confronté à une multiplicité de perspectives disciplinaires sur ces phénomènes politiques, parmi lesquels la théorie politique, la philosophie politique et l'histoire des idées politiques. Et il nous a semblé que ces perspectives ont deux particularités. D'une part, elles font une large place aux aspects théoriques dans l'approche des faits politiques, alors que les sciences humaines et sociales, en général, mettent plus volonté d'accent sur la dimension empirique. Et d'autre part, ces perspectives n'ont pas vraiment de lieu disciplinaire prédéfini. On peut les retrouver dans les départements de sciences politiques, mais aussi d'histoire, de philosophie, de sociologie, etc., etc. Donc il nous a semblé qu'en définitive, si cette situation contribuait à une certaine faiblesse institutionnelle de ces perspectives, cela participait également à une certaine fécondité scientifique. Parce que ce sont en effet des perspectives qui obligent le chercheur à une certaine indiscipline, ou à sortir des disciplines. Donc nous avons la grande chance ici à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, d'avoir différents laboratoires qui font dialoguer les disciplines des SHS autour d'objets communs. Et ainsi la théorie politique, la philosophie politique, l'histoire des idées politiques, ou au moins certains aspects de ces perspectives, trouvent-ils une place, par exemple au sein du CESPRA, donc le centre qui nous accueille, le centre d'études sociologiques et politiques de Moiron, au sein du LIER, le laboratoire interdisciplinaire d'études des réflexivités, et Bruno Carcenti nous a fait l'honneur de venir, au sein du CRH, le centre de recherche historique, et d'ailleurs Antoine Lévity et Sylvia Sébastiani, qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui, nous ont fait des retours positifs sur le thème de cette journée. Donc ce lieu se prête particulièrement à l'établissement d'un dialogue franc et amical sur toutes ces questions. Un dialogue amical, puisque, en général, nous partageons tous un certain intérêt scientifique pour une ou plusieurs de ces approches des phénomènes politiques, mais aussi un dialogue franc et exigeant, puisqu'il ne faut pas se cacher les profondes divergences qui existent entre ces différentes perspectives concernant les méthodes, les sources de connaissances, les prémices, les attractions disciplinaires, etc., etc. Comme le montre, par exemple, la diversité des appellations auxquelles notre journée d'études n'a pas pu faire droit. Nous avons parlé de théorie politique, philosophie politique, histoire des idées politiques, mais il aurait été également possible de parler de pensée politique, d'histoire intellectuelle, de philosophie normative, d'histoire sociale des idées, etc., etc. Donc autant d'approches qui entrent souvent en tension les unes avec les autres. Mais donc aujourd'hui, nous faisons néanmoins le pari qu'il est possible, au-delà de ces réels désaccords, de reconnaître l'apport pour les sciences humaines et sociales de ces différentes perspectives, notamment comme outil critique et réflexif, comme nous l'espérons et le montreront les contributions de cette journée. Et pour terminer, nous souhaitons donc remercier très chaleureusement tous les participants de cette journée, les intervenants et les discutants qui ont généreusement accepté de venir aujourd'hui, alors qu'on sait que cette fin d'année est très très chargée en journée d'études, colloques, etc. Merci à toutes les autres personnes présentes également. Et merci enfin au CESRA, donc au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron, notamment Olivier Renaud, son directeur, Gilles Bataillon, le responsable de la mention études politiques, grâce à qui nous avons pu organiser cette journée et qui nous ont soutenus. Et nous espérons donc, tous les quatre, que vous prendrez autant de plaisir à participer à cette journée que nous avons eu à la préparer. Merci à tous.
Je dois officier.
Voilà.
C'est le moment.
Voilà, c'est le moment. D'accord. Bon, ben, je suis vraiment très heureux de présider cette matinée. Deux mots avant de commencer. Lorsque je suis arrivé à l'école des hautes études en sciences sociales, j'ai immédiatement rejoint un centre qui est un centre qui était un centre de sociologie et qui est devenu le centre qu'on a créé à la suite est un centre qui lie sociologie et philosophie, mais les premières invitations qui m'ont été adressées venant de groupes de doctorants, en fait, ce sont des invitations, donc participer à des séminaires de doctorants, des invitations des étudiants d'études politiques et des étudiants du CESPRA. Donc j'aimerais rendre hommage à ce centre pour ce qu'il est parvenu à réaliser, à savoir vraiment une communauté de doctorants actifs et ouverts sur les disciplines et tout ce qui se fait à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc je suis vraiment ravi de présider cette matinée, de travailler avec vous ce matin. Donc nous allons entendre Luc Foineau, qui va... Tu me rappelles le titre de ton intervention?
C'était une théorie de la justice, on peut faire.
Une théorie, voilà. C'est direct,
c'est simple, c'est simple à mémoriser.
Ça commence
tellement. Bon, donc une théorie de la justice, pourquoi, virgule, pourquoi faire et ensuite, donc, je crois que Luc doit nous quitter assez tôt ce matin. Et donc, il souhaite que les questions viennent immédiatement après. Donc, on a finalement fait deux exposés avec deux discussions. Et ensuite, on entendra Daniel Tanguay, l'Université d'Ottawa, sur la tentation syracuséenne de la philosophie politique contemporaine. Voilà, je te donne la parole immédiatement.
Merci beaucoup, Bruno. Et je commencerai par des excuses. Je pensais initialement participer à l'ensemble de la journée. Et pour des raisons familiales, indépendantes de ma volonté, je dois vous quitter à 10h30. Donc je vais, puisque j'ai demandé effectivement, et je remercie également, je voudrais commencer par remercier l'association de la mention études politiques, extrêmement active de son invitation. Vous remercier également d'avoir accepté d'anticiper un petit peu le début de cette journée et de commencer donc... Il est 10h20, donc j'aurai terminé mon propos, pardon, 9h20. J'aurai terminé à moins 20, puisque c'est ça, vous nous accordez le format, c'est 20 minutes. Et j'essaierai dans ces 20 minutes de faire quelques propositions, je n'aurai pas le temps de faire davantage, pour permettre ensuite quelques remarques et une discussion. Alors, le titre, effectivement, de cette intervention est... Et direct, une théorie de la justice, pourquoi faire ? Elle anticipe en quelque sorte des objections qu'on pourrait lui adresser, et des objections notamment qu'on pourrait lui adresser dans le cadre de la philosophie politique. Donc c'est cette théorie de la justice que je voudrais en quelque sorte défendre, présenter très rapidement, mais je pars du postulat que vous la connaissez déjà, surtout la défendre et en particulier essayer de resituer à l'intérieur ou de situer plus précisément par rapport à ce que l'on pourrait appeler la philosophie politique, la théorie politique et certaines sciences sociales. Si je me souviens bien, c'est l'intitulé de cette journée. Donc mon travail, ça va être une sorte de topographie sommaire. Essayer de situer ce livre, paru en 1971, par rapport à ces trois autres ensembles. Et pour vous donner une idée de la thèse que je voudrais défendre, je voudrais effectivement, souligner le fait que pour Rawls lui-même, après bon, ce que ses disciples en ont fait est une autre question, mais pour Rawls lui-même, la théorie de la justice ne correspondait pas à un projet pratique. La théorie de la justice n'a pas été écrite ou rédigée par Rawls dans un but d'application, contrairement peut-être à ce que certains ont voulu faire à partir de cette théorie. Elle a été conçue comme véritablement un projet de philosophie morale et politique s'inscrivant à l'intérieur et dans une tradition longue réflexion sur le politique à partir de la morale. En fait, ce qui caractérise effectivement cette théorie politique, c'est le souci d'une fondation morale de nos jugements politiques. Donc c'est de façon assez classique, À l'intérieur, effectivement, ou dans une perspective moderne, le but de la théorie de la justice, c'est de nous permettre de mieux fonder, justifier les jugements moraux que nous pouvons porter dans le champ du politique. Alors, pour, disons, étayer cette idée, je partirai de l'entretien que j'ai traduit avec Véronique Munoz Dardet dans la petite collection Audiographie aux éditions de l'HESS, de la fin de cet entretien. Que nous dit Rawls à la fin de cet entretien? C'est une des dernières réponses aux dernières questions qui lui sont posées par trois de ses étudiants de Harvard. On lui demande effectivement pourquoi faire de la philosophie, et à ce propos, il resitue d'une manière qui me paraît éclairante le projet philosophique dans un cadre plus général. Il nous dit trois choses essentiellement. Faire de la philosophie, ça ne répond pas à un projet utilitariste ou un projet d'utilité. Il n'y a pas d'utilité en quelque sorte, si l'on entend l'utilité d'un point de vue économique, à faire de la philosophie. Faire de la philosophie répond à une question de civilisation. Et de ce point de vue-là, la philosophie politique, ou le projet de fonder moralement nos jugements politiques, s'inscrit ou appartient au même ensemble, en quelque sorte, disons, à la même constellation que les cantates de Bach ou les tableaux de Manet. C'est un problème de civilisation, et Rawls ajoute, une société sans philosophie politique est une société à laquelle il manque quelque chose. Et ne spécifie pas ce quelque chose, mais ce quelque chose est de l'ordre de la civilisation. Il ajoute, il ajoute également cette analogie que j'ai indiquée déjà, qu'il y a une analogie entre la fonction de la philosophie politique et la musique et la peinture, précisant la musique et la peinture, effectivement, sont des modes également de compréhension du monde. On pourrait dire donc que la philosophie politique, la théorie de la justice, est un mode de compréhension morale du monde politique qui est le nôtre. Donc, quelles sont les questions? C'est le cadre général, si vous voulez, de sa réponse, mais je pense qu'il est important de le rappeler, pour éviter un certain nombre d'équivoques, et j'essaierai, dans ces quelques minutes, de lever un certain nombre d'objections que l'on pourrait adresser à la théorie de la justice. Quelles sont les questions? Quel est l'objet plus spécifique, ou la fonction plus spécifique à l'intérieur de cet ensemble général d'une théorie de la justice? Cette fonction, nous dit Rawls, toujours, je m'appuie toujours sur le même texte, ces conceptions morales dans le champ du politique contribuent, nous dit-il, à la préservation des institutions démocratiques en tant que telles. Donc il avance, si vous voulez, une thèse supplémentaire. Les institutions démocratiques qui sont les nôtres ont besoin de ce fondement moral de nos jugements politiques. Il ne l'explicite pas, mais c'est une thèse supplémentaire que j'avance ici. Pourquoi? Parce que, et les questions ici qui sont celles de la théorie de la justice seront, par exemple, de réfléchir à la bonne manière de résoudre les conflits entre liberté et égalité, mais aussi, et j'y insiste, parce que on l'oublie parfois à propos de la théorie de la justice, l'une des questions centrales, et à mon sens la question essentielle lorsque j'ai à présenter effectivement cette théorie de la justice, je pars généralement de cette question, le point de départ de cette théorie morale, c'est la question, ou le fait, plus exactement, non pas la question, mais le fait qu'il existe dans nos sociétés démocratiques une pluralité de conceptions raisonnables de la vie bonne. Donc le fait, en quelque sorte, dont Rawls va partir et qu'il va élaborer théoriquement dans cette théorie qui n'a pas de visée d'application, c'est la question suivante: comment peut-on penser moralement les institutions qui sont les nôtres à partir du fait que nous vivons et que nous sommes citoyens et citoyennes d'organisations, de communautés politiques qui ne reposent pas sur une unique conception de la vie bonne. Hein. Ce sont des choses effectivement bien connues, mais je pense qu'elles sont essentielles pour penser le cadre à l'intérieur duquel ensuite les questions de liberté, d'égalité, de fraternité effectivement pourront être posées. Donc, la théorie de la justice, c'est mon premier point, ne répond pas à une autre finalité que la compréhension des principes moraux sur lesquels reposent nos sociétés démocratiques. Elle n'a pas de but utilitaire. Une théorie de la justice, pourquoi faire ? Je reprends la question initiale. Pour résoudre un certain nombre de problèmes théoriques que nous nous posons lorsque nous réfléchissons aux fondements moraux de nos institutions politiques. En ce sens, elle ne sert à rien si l'on pense l'utilité de façon limitée ou restreinte comme une contribution à la richesse collectivement produite. Elle est en ce sens identique à d'autres œuvres de la culture. Mais elle contribue à la compréhension du monde dans lequel nous vivons, elle contribue à la connaissance morale, et j'insiste sur ce point, sur cette dimension de la connaissance morale, du monde politique qui est le nôtre. Bon, confirmation de cette thèse, et je fonctionne par réfutation d'objections qu'on ne m'a pas encore faites, mais qu'on pourrait le faire, c'est un principe d'économie également dans la gestion du temps. Donc, confirmation de cette thèse, voilà.
Le débat est incorporé.
C'est une partie, si tu veux, du fonctionnement en situation de crise, si tu veux, on intègre effectivement l'objection possible. Donc, l'une des objections possibles, effectivement, que l'on pourrait adresser, que l'on a adressée à la théorie de la justice, consisterait à dire que, finalement, cette théorie est une idéologie. Idéologie en quel sens ? Idéologie au sens où elle nous fournirait, en quelque sorte, une réponse ou des réponses ou un ensemble de réponses déjà pensées, déjà mâchées, déjà préparées à un ensemble de questions, disons, relevant de la vie politique qui serait la nôtre. Cette objection est une objection extrêmement forte. Elle consiste à dire la théorie de la justice, c'est en quelque sorte une anti-philosophie politique, puisque elle ne laisse pas la possibilité à la discussion sur les principes, elle ne laisse pas la possibilité à la discussion sur les cas qui se présentent et qui sont toujours, bien évidemment, c'est le propre de la vie politique, qui relève toujours et qui sont toujours de l'ordre de la contingence. Pour répondre à cette objection, il m'a semblé que la meilleure réponse était celle que Rawls se donne toujours dans le même entretien qui a été donné en 1991, alors que Rawls avait 70 ans, hein, qu'il n'avait pas encore publié, toute son œuvre était là, il n'avait pas encore publié effectivement la reformulation, hein, qui paraîtra en 2001, mais l'essentiel de son œuvre était là, et donc la réponse qu'il pose à cette question, il a bien conscience de cette chose-là, puisqu'il connaît un certain nombre de phénomènes comme dans les universités américaines, comme le politiquement correct. Hein, donc Rawls a bien évidemment conscience d'un certain usage ou de certaines utilisations abusives qui ont pu être faites effectivement de cette théorie. Et voilà ce qu'il nous dit, c'est à la page 83 de l'entretien dans notre traduction. Je ne vois pas, nous dit-il, une conception politique de la justice comme quelque chose qui me dit ce que je dois penser. C'est une grave erreur de la considérer comme un outil qui nous donne des réponses à toutes sortes de questions quand vous le voulez. C'est une raison pour laquelle je répugne à répondre à des questions sur des thèmes politiques particuliers. Fin de citation. Pourquoi ? Alors, la réponse ici me semble très, très précise. Hein. La théorie de la justice n'est pas une machine, en quelque sorte, à produire des réponses par rapport à des questions qui sont suscitées à l'intérieur de la vie politique de nos sociétés démocratiques. Alors, essayons de préciser un petit peu le sens de cette, disons, intervention de Rawls. Pas une réponse. La théorie de la justice n'est pas une réponse, n'a pas pour finalité de nous donner des réponses à des questions politiques particulières, mais elle a pour finalité de répondre à des questions particulières sur les fondements moraux de la politique. Ce qui n'est pas la même chose. Le but du philosophe n'est pas d'intervenir dans le débat politique pour donner des réponses en fonction de sa théorie aux situations qui se passent dans tel ou tel contexte démocratique, mais elle a pour fonction de nous donner des questions particulières, et j'ajouterai des questions déterminées, des réponses déterminées, précises et rigoureuses, c'est l'héritage de la philosophie moderne, à des questions concernant les fondements moraux de la politique. Donc, que nous dit Rawls par rapport à la question du politique, hein, ici je me situe non pas du côté de la théorie politique, de la philosophie politique ou des sciences sociales, mais du point de vue de la chose même, hein, dont il est question, c'est-à-dire de la vie politique de nos États démocratiques. Qu'en est-il et que nous dit Rawls à propos du rapport du philosophe qu'il est à cette situation politique toujours contingente dans nos démocraties? Il nous dit trois choses très classiques et qui ne relèvent pas de la théorie politique. Premièrement, juger une situation particulière relève d'une activité de jugement. Elle suppose une attention précise et une connaissance des circonstances. Donc, vouloir appliquer, bon, ce qui est d'une généralité et d'une banalité absolue, mais mon point ici, et le fil que j'essaie de suivre, c'est de dire, pour intervenir dans ce contexte politique particulier, on n'a pas besoin de la théorie de la justice. Vouloir appliquer, donc par conséquent, et à contrario, vouloir appliquer les principes de la justice d'une manière mécanique pour répondre à des situations particulières, relèverait, et Rawls utilise le terme de façon explicite à la page 84, relèverait de l'idéologie. Hein. Donc ici, si vous voulez, Rawls avait bien conscience de cette difficulté. Troisième point, ce serait sur la théorie de la justice et les sciences sociales. Voilà, quel type de philosophie politique est la théorie de la justice? Il faut toutefois, et je pense que c'est un rappel, bon, ce sont des choses aussi que vous savez, donc là je me contente de réunir un certain nombre de remarques générales pour permettre une discussion. Il s'agit nullement effectivement d'entrer dans le détail, on n'en a pas le temps et ça n'est pas nécessaire. Il faut toutefois se souvenir que la théorie de la justice est nourrie depuis le début par les sciences humaines et sociales. Et je crois que c'est une des caractéristiques de la théorie de la justice en tant que philosophie morale de la politique. Je pense que c'est un point qu'il faut souligner. Alors, premièrement, nourrie par les sciences sociales, mais aussi par les sciences humaines. Hein, je veux dire, à tout seigneur, tout honneur, je commencerai par les sciences humaines ou les humanités, parce que le terme de sciences humaines lui-même est une version finalement tardive. Ce dont il s'agit, c'est des humanités nourries par les humanités. En quel sens? Au sens où l'histoire des idées politiques constitue pour Rawls et a toujours constitué pour Rawls un réservoir d'idées et de principes qui sont utilisés par lui à l'intérieur même de sa théorie. Pensez par exemple à l'usage qu'il fait de Hume, hein, qui est très présent dans sa pensée, notamment à sa théorie sur les conditions de la justice, mais aussi, c'est tellement énorme qu'on a tendance à l'oublier, à la notion de contrat. Hein, pensez effectivement à l'emprunt qu'il fait effectivement au contractualiste classique. Alors, ce point est bien connu. Ce que je voudrais en retenir, c'est qu'on peut aller plus loin. Il ne s'agit pas simplement, en quelque sorte, pour Rawls, de saluer, des représentants classiques et modernes de la pensée politique, de les saluer pour prendre congé. Son enseignement à Harvard portait sur la théorie de la justice, mais aussi sur l'histoire des idées politiques. Et par ailleurs, on a pu montrer dans des travaux récents à quel point ses leçons sur l'histoire de la pensée politique et l'histoire de la philosophie morale lui avaient permis, en quelque sorte, en fonction du dispositif de l'équilibre réfléchi, de déterminer les points de départ qui sont les siens. Donc l'aller-retour entre la théorie de la justice et les auteurs de la tradition philosophique constitue un élément essentiel de cette théorie. Deuxièmement, Rawls, au moment où il élabore sa théorie, il commence à travailler à sa théorie, à rédiger les premiers textes à l'automne 1950 lorsqu'il est à Princeton. À ce moment-là, que lit Rawls? Il ne lit pas seulement les philosophes, il ne lit pas seulement Hume, Hobbes, Rousseau, Aristote, Saint-Augustin, etc. Il lit énormément d'économie. Donc c'est frappant, si vous voulez, de voir à quel point ces lectures, il suit le séminaire de Gaumol, qui est professeur à NYU, il lit Valeur et Capital de John Hicks, il lit Les fondements de l'analyse économique de Samuelson, bref, il est pris dans un ensemble de lectures qui relèvent de la nouvelle économie du bien-être, et c'est en quelque sorte par rapport à ces lectures économiques aussi qu'il va déterminer la thèse qui est la sienne. Et il s'intéresse bien évidemment, c'est tellement évident que j'omets de le mentionner, à la théorie des jeux, dont l'ouvrage Théorie des jeux et des comportements économiques, précisons-le, on est toujours dans le champ effectivement de cette science sociale qu'est l'économie. Il lit la théorie des jeux de von Neumann et Oscar Morgenstern, qui est paru en 1944, donc il y a 6 ans, quand on est à l'automne 1950. Donc il lit ces choses en même temps qu'il rédige sa thèse en philosophie morale. Donc la thèse de Rawls est une thèse en philosophie morale sur les fondements, c'est le titre de cette thèse, les fondements de la connaissance morale dans son rapport avec les jugements sur la valeur du caractère. Du caractère au sens du caractère moral. Une thèse tenue en 1950. Pourquoi cet intérêt pour la théorie économique? Et j'en viens ici à l'enjeu intellectuel de cette théorie de la justice et la raison pour laquelle aussi elle occupe la place qui est la sienne aujourd'hui. Il y a toujours des circonstances contingentes dans le succès, la réputation, etc. Mais il y a aussi des raisons, heureusement, c'est rassurant d'un certain point de vue, des raisons qui sont liées au contenu même de cet ouvrage. Je dirais, pour aller très vite, qu'il s'agissait pour Rawls de défaire l'évidence ou une compréhension ou une pré-compréhension, disons, de la connaissance morale dans les termes de l'utilitarisme. L'enjeu de la théorie de la justice est aussi un enjeu stratégique à l'intérieur d'un contexte qui n'a jamais été celui de la philosophie française, donc ce qui explique aussi la place un peu particulière de cet ouvrage dans la tradition philosophique de notre pays. Il s'agit, dans un contexte qui n'est pas le nôtre, qui est celui de la philosophie américaine, de la philosophie britannique, de proposer une autre justification morale de nos institutions politiques que celle qui procédait depuis le début du XIXe siècle de l'utilitarisme. D'où la connaissance de l'économie, le fait que Rawls, préparant sa thèse, Rawls doctorant, bien cette situation-là, les choses en train de se faire, Rawls doctorant, si vous voulez, est immergé dans des lectures économiques. Pourquoi ? Parce que ces lectures de l'économie lui permettent de préparer une nouvelle pensée morale du politique qui prennent et qui établissent un écart par rapport à l'utilitarisme, et pour le dire de façon très schématique, mais c'est l'explication du titre, théorie de la justice, on pourrait dire aussi théorie des droits, on pourrait dire aussi une théorie qui prenne les droits au sérieux, etc. Tous les titres produits par la suite, et on pense bien évidemment aux travaux aussi de Dworkin, sont une reformulation, en quelque sorte, de ce point. Donc, aborder la question morale contre l'utilitarisme et du point de vue effectivement d'une théorie des droits, aborder la question des fondements moraux de la politique d'une manière qui puisse mettre de côté le sacro-saint calcul coût et bénéfice et l'idée centrale effectivement dans la pensée utilitariste que la chose essentielle c'est la possibilité de penser une maximisation en quelque sorte du bonheur social. D'où l'importance, je vois que j'ai dépassé d'une minute effectivement le temps qui m'était alloué, si vous me donnez encore deux minutes, je vais m'orienter vers ma conclusion. D'où l'importance, alors cette question des droits explique effectivement l'importance et l'intérêt que d'autres, effectivement, une autre catégorie, disons, de chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales a accordé à la théorie de la justice, l'importance de la théorie de la justice pour la théorie juridique. Donc la théorie juridique, effectivement, et l'interlocuteur devient, en quelque sorte, l'interlocutrice principale d'une théorie de la justice, d'où l'importance également de la théorie de la justice pour le droit constitutionnel. Mais dire importance de la théorie de la justice pour le droit constitutionnel ne veut pas dire pour autant que le seul intérêt de la théorie de la justice soit dans le domaine du droit constitutionnel. Hein, l'objet et l'horizon étaient plus larges. Alors, si la théorie de la justice a eu des effets... alors, voilà, si vous voulez, cet enjeu. Alors, le dernier point que je voudrais introduire pour préparer cette discussion, c'est le fait que cette théorie de la justice a effectivement nourri le débat et la réflexion en économie, en droit, également dans le domaine de l'histoire des idées politiques, mais son horizon, hein, c'était la thèse que j'ai avancée au début, son horizon demeure effectivement de contribuer de façon théorique et non appliquée à la réflexion sur les fondements moraux de nos jugements politiques. Pour autant, et j'ajouterai ce point, et si je ne l'ajoutais pas, l'exposé ne serait pas complet, pour autant, elle a eu des effets également dans un certain nombre de domaines, et je pense ici à certaines parties de l'économie, et notamment l'économie du développement, qui sont des effets théoriques, mais qui ont eu une incidence pratique dans la manière dont les économistes ont mis en place effectivement leur manière de penser et d'évaluer les situations dans différents pays. Je n'aurai que le temps de citer cette théorie. Il me semble que la théorie des biens premiers, la théorie des biens premiers ou des biens primaires, primary goods, est un bon exemple de cet emprunt qui a été fait par les économistes, et ici en l'occurrence par Amartya Sen, à la théorie de la justice de Rawls, et qui a considérablement transformé les outils dont nous disposons pour évaluer en quelque sorte les situations, évaluer de manière comparative les situations de différents pays. Et la théorie des biens premiers, initialement, vise à résoudre un problème théorique à l'intérieur de la théorie de la justice, c'est-à-dire comment penser de manière non utilitariste la comparaison entre des situations et notamment la question des inégalités. Parce que c'est pour cette raison, effectivement, que la théorie des biens premiers a été inventée. Mais comment faire pour penser les inégalités à l'intérieur de nos sociétés et entre nos sociétés, ce qui est aussi un aspect important, comment faire pour penser ces inégalités sans retomber immédiatement dans les difficultés des utilitaristes et retomber immédiatement sur les méthodes utilitaristes d'agrégation. Et l'idée, si vous voulez, très 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 forte de cette théorie de la justice, de cette théorie des biens premiers, c'était de montrer que pour établir ces comparaisons, il ne faut pas tenir compte seulement des biens que les économistes prennent en considération, des revenus et du capital, mais tenir compte également de ces autres biens que sont nos droits, nos libertés et également un certain nombre de considérations morales comme par exemple le respect que nous pouvons avoir, ou les bases sociales du respect que nous pouvons avoir pour nous-mêmes. Et bon, on sait très bien, j'abrège ici cette chose-là puisque mon argument c'était de montrer comment la théorie de la justice, en dépit du jugement que Rawls se portait lui-même sur les limites j'allais dire de son projet, s'inscrivait dans un cadre de philosophie politique, en dépit des limites que Rawls a assigné lui-même à son projet, cette théorie a été productive dans des champs différents, notamment dans le champ de l'économie, et a permis, en l'occurrence, des applications auxquelles Rawls n'avait pas lui-même pensé. Donc, toutefois, si on peut repérer effectivement, et j'ai pris cet exemple pour faire simple, parce qu'il est particulièrement, en tout cas il nous paraissait particulièrement parlant, toutefois, donc, si l'on a pu utiliser la théorie de la justice comme une boîte à outils, la faire fonctionner dans d'autres champs, tel n'était pas le but initial de Rawls. Pour lui, je résume donc mon propos, la théorie de la justice appartient au champ de la civilisation comme les cantates de Bach et les tableaux de Manet. Ça n'est pas une idéologie qui vise à faire peser sur nous en quelque sorte des concepts préfabriqués visant à résoudre d'une manière univoque les questions morales que nous pouvons nous poser à l'intérieur des démocraties qui sont les nôtres. Autrement dit, la théorie de la justice n'a rien à voir avec le politiquement correct, et ce n'est pas non plus un instrument au service de buts sociaux, hein, tout au plus, et j'ajouterai ce qui est déjà beaucoup, hein, c'est une théorie qui vise à modifier la manière dont nous évaluons moralement nos institutions sociales, économiques et politiques. À quoi sert donc la théorie de la justice? Je dirais, pour terminer, à changer et à modifier les termes de notre jugement moral en politique. Merci.
Bien. Alors, je vais me charger de lancer le débat, si c'est possible. Hein, j'ouvrirai ensuite sur... je te remercie d'avoir fait cet effort de reconduire la théorie de la justice au genre de philosophie qu'elle est et de position sur ce qu'est la philosophie. Hein. Alors, tu le fais en accentuant et en marquant fortement un décrochage entre ce qu'est cette théorie en tant que philosophie et sa mise en œuvre ou son application et le fait que elle ne vise pas essentiellement cette application. Néanmoins, cette application, elle a eu lieu. Donc, il y a une question évidemment qui émerge tout de suite. Comment expliquer si elle n'est pas essentiellement une idéologie, hein, qu'elle le soit devenue dans les faits. Bon. Alors, pour ma part, je pense qu'elle est une idéologie. Donc, je vais pointer des difficultés pour moi. Pointer des difficultés. Première difficulté, donc, qui s'adresse à la philosophie qu'elle est dans ton discours. Bon, premier aspect, la philosophie pour elle, donc la façon dont elle se pense elle-même comme philosophie, consiste à la défendre comme contribution à la civilisation. Hein. Au même rang que la musique et la peinture. Je n'ai pas d'idée pertinente sur la façon dont la musique et la peinture sont des contributions à la civilisation. Néanmoins, pour ce qui concerne la philosophie, il me semble que pour répondre à cette définition de contribution à la civilisation, la philosophie doit néanmoins se spécifier. Et il me semble qu'elle se spécifie de la manière suivante. Ce n'est pas simplement qu'elle est une contribution à la civilisation, c'est qu'elle est une contribution qui doit pouvoir être en mesure d'expliquer la civilisation elle-même, c'est-à-dire en quoi la civilisation est la civilisation, ce en quoi elle se distingue de la musique et de la peinture. Voilà, je me limiterai à ce critère. Alors, d'un certain point de vue, cette exigence de définition, elle était dans ton discours. Je l'ai vu. Alors, je te dis où je l'ai vu. Je l'ai vu dans la prémisse que tu as donnée. Tu as donné deux prémisses, et d'ailleurs deux prémisses en tension l'une avec l'autre, pour que la théorie de la justice, comme philosophie, s'affirme. Elle doit se donner pour but. Enfin, elle a ce but implicite, en fait, elle émane de cette intention, voilà, c'est une intention. Double. Préservation des institutions démocratiques. Et respect ou aménagement des formes plurielles, des acceptions plurielles de la vie bonne. Alors, comment la théorie de la justice traite-t-elle la tension entre ces deux intentions ou parce que moi, j'y vois une tension.
Pourquoi est-ce que tu y vois une tension?
Parce que, j'y vois une tension parce que il ne va pas de soi que les institutions démocratiques soient intégralement dévolues à l'aménagement d'une pluralité de poursuite des biens ou de réalisation de la vie bonne. En tout cas, ça demande une explicitation.
Voilà.
Donc ça, c'est le premier point sur cette philosophie. Si elle doit expliquer en quoi elle est une contribution à la civilisation, ça doit passer, à mon avis, par là. Alors, j'en viens maintenant à la en fait, ça touche d'ailleurs à la question de la fondation morale de la politique. C'est ce point-là que je voudrais approcher. Si j'ai le temps encore un tout petit peu, un tout petit peu. C'est vrai ? Non, mais alors, parce que mon deuxième point, il est un peu plus dur, en fait. C'est que je crois qu'il y a quelque chose qui est impliqué dans la théorie de la justice et qui est apparu au moment de ton exposé où tu traitais de la façon dont les sciences humaines et les sciences sociales ont irrigué cette théorie, ou en tout cas la façon dont cette théorie s'est mesurée à cette double source, sciences humaines et sociales que tu as séparées. Mais enfin, je suis tout à fait d'accord avec le mode de séparation que tu as fait, Rosemary Bloom d'un côté et les sciences sociales correspondantes dans ton esprit plus à l'économie de l'autre, si je t'ai bien suivi. Alors là, on a en fait un problème, et c'est là que la question de savoir si c'est une philosophie ou une idéologie se pose pour moi. C'est que il faut, pour que cette théorie de la justice soit conséquente avec elle-même, assumer deux prémices fondamentales. Un, le contractualisme. Deux, l'économie politique, l'économie néoclassique en fait, et ses transformations même dans l'économie de bien-être, et même l'aménagement de cette économie néoclassique dans la théorie des biens premiers, etc. On reste dans... C'est-à-dire, en fait, exactement dans une autre généalogie que tu connais, mais sans doute que tu... à laquelle tu adresserais des objections, exactement ce contre quoi les sciences sociales, la tradition sociologique s'est constituée. D'un côté, le contractualisme, la théorie, la science du droit naturel dans son développement contractuel. De l'autre, l'économie politique, la double critique des théories du droit naturel et de l'économie politique, c'est depuis le début du 19e siècle, à peu près, ce qui a ouvert le champ des sciences sociales. Alors là, on a un problème, tu vois. Si c'est une philosophie politique qui s'est nourrie des sciences sociales, dans mon acception, elle s'est nourrie de fausses sciences sociales, ou en tout cas quoi, en fait, les sciences sociales ont dû lutter pour frayer leur voie. Voilà, je m'arrête là. non, mais attends. Il faut...
Juste,
après, on enchaîne sur la
oui,
table.
Non.
Comme j'ai... Voilà.
Non, merci beaucoup, Bruno. Non, puis en plus, là, je le redis, ça me fait très plaisir, effectivement, qu'on ait l'occasion de discuter, parce que nous sommes dans la même école et on n'a pas tant d'occasion toujours de pouvoir discuter. Donc vraiment, je te remercie de tes questions et je vais essayer d'y répondre rapidement. Donc, le point ici, le point de départ finalement et le point d'arrivée aussi, tes deux séries de critiques finalement se rejoignent dans une même autour d'un même terme. Et c'est pour ça que je suis assez content d'avoir trouvé cette expression, l'utilisation de ce terme que tu t'es utilisé pour critiquer la théorie de la justice sous la plume de Rawls lui-même. Lorsque Rawls nous dit « il vous faut examiner les choses indépendamment de ses principes », quand on fait de la politique, il faut examiner ces choses indépendamment de ces principes, ou autrement, vous risquez de devenir un idéologue. Bon. Donc, ça veut dire ici qu'il y a deux sens de l'idéologie. Le sens que Rawls donne à l'idéologie consiste à appliquer mécaniquement un certain nombre de principes. Être un idéologue, c'est avoir une théorie X et utiliser les principes de la théorie X pour juger une situation politique déterminée et contingente. C'est le sens qu'il donne à l'idéologie. Manifestement, ce n'est pas le sens que tu donnes à l'idéologie lorsque tu dis, de façon très forte, effectivement, la théorie de la justice est une idéologie. Donc, si je t'ai bien compris, ce que tu veux dire par là, c'est, ça revient à dire que la théorie de la justice est une idéologie parce qu'elle n'a pas compris, en quelque sorte, elle situe certes son débat et ses prises de position par rapport à certaines sciences humaines et sociales, donc tu le reconnais, mais ce ne sont pas les sciences humaines et sociales, en quelque sorte, qui disent la vérité sur nos sociétés. Autrement dit, elle est une idéologie parce que, finalement, elle se situe par rapport à des sciences humaines et sociales qui sont elles-mêmes de l'idéologie. Autrement dit, aussi bien le droit par rapport auquel Rawls se situe que l'économie politique qu'il prend pour cible sont elles-mêmes des idéologies parce que, d'un certain point de vue, elles n'ont pas, tenu compte de la rupture que constitue la Révolution française, pour aller vite, et ignore, et la Révolution industrielle, et ignore en quelque sorte l'apport, pour aller vite, durkheimien. Donc voilà, c'est une... Voilà, donc si je reformule propos, c'est celui-ci. C'est plus compliqué, comme on a peu de temps, on est obligé de réduire les choses à des formules un peu courtes. Hein. Ce qui, donc, je vais répondre par rapport à ça.
Non, mais saint-simonien, contient.
Oui, absolument. C'est une objection
que je pourrais prendre la tradition allemande aussi.
Oui. Mais justement, le point, c'est que nous sommes ici, chez les anglo-saxons, avec un petit tiret entre les deux. Enfin, cette expression qui ne veut rien dire, parce qu'entre un anglais et un américain, il y a plusieurs océans, mais cette expression qui ne veut rien dire, ici, nous nous situons dans ce contexte-là. Donc, j'ai bien entendu, effectivement, tu dis, finalement, la vérité de la philosophie continentale, aussi bien allemande que française, n'a pas franchi n'a pas franchi la Manche, et pourtant, certaines personnes franchissent la Manche à la nage, et c'est plus facile de franchir la Manche à la nage que théoriquement de passer d'un bord à l'autre de la Manche. Donc ici, cette remarque me paraît juste, mais là où la différence entre nous, c'est que je ne qualifierais pas effectivement cette remarque qui me paraît juste du point de vue effectivement de l'histoire des idées politiques, la différence entre cette tradition est effectivement considérable. Je ne franchirai pas effectivement je n'en conclurai pas que pour autant il n'y a pas de tradition des sciences sociales aux États-Unis ou en Angleterre et je n'irai pas jusqu'à dire non plus que l'utilitarisme, et c'est un jugement sur l'utilitarisme aussi qui est derrière tout ça, ce qui est en jeu, c'est le statut d'utilitarisme. Je ne caractériserai pas et je ne disqualifierai pas d'emblée l'utilitarisme comme relevant purement et simplement de l'idéologie, parce que c'est ça que tu... c'est quand même l'un des éléments.
Non, mais ça se jouerait sur l'évaluation, la façon... L'évaluation de l'utilitarisme, tu as entièrement raison. Hein. Mais pour moi, un livre comme celui d'Alévi, dévoile une manière de lire la tradition utilitariste où la présence du social qui est, c'est vrai, je pense, la révélation intellectuelle majeure de l'âge des révolutions, la présence du social a sa place. Donc je pense que tu as raison, il faudrait, pour être juste avec cette tradition intellectuelle, engager une lecture fine de ce qu'a représenté réellement la pensée sociale utilitariste.
Absolument.
Voilà. Et ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'elle confirmerait. Bon.
Juste sur ce point, si je peux juste ajouter un mot, parce que ce sont des questions complexes, effectivement, par rapport à cette question du social, le terme lui-même est, j'allais dire, le social, c'est comme le politique ou l'économique. Hein, tu vois, il y a une. Alors, on peut le déterminer. Ce que je voudrais dire ici, c'est que, simplement pour déplacer un peu le champ du discours, le problème, et pour revenir à ton premier point sur la civilisation, c'était des remarques, c'est pas essentiel dans le propos de Rawls, ce sont quelques remarques qu'il a données dans l'un des deux seuls entretiens qu'il a donnés. Pour lui, des entretiens, c'est hyper marginal. Hein, je veux dire, Rawls n'est pas Foucault. Il n'a pas passé son temps à donner des entretiens. Donc il en a donné deux dans sa vie. Il y en a un qui n'est pas très intéressant, et celui qui est intéressant, c'est celui qu'on a traduit. Point. Donc il n'y a rien d'autre. Donc c'est vraiment, il ne faut pas non plus surdéterminer ces textes. Hein. Je veux dire, il faut être prudent par rapport à ça. Mais le point qui me paraît essentiel, malgré tout, dans ce qu'il dit dans cet entretien, c'est la contribution ici, et alors c'est peut-être sur cette question-là qu'on peut développer notre discussion. Le point essentiel, c'est qu'il s'agit non pas de philosophie sociale, de philosophie morale. Et je pense ici que c'est peut-être un point effectivement auquel il faudrait réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement que vouloir aborder la politique, les questions de philosophie politique, du point de vue effectivement de ce qu'on pourrait appeler une formation du jugement moral? Nous sommes dans le cadre encore de ce que l'on appelait une théorie des sentiments moraux. Il s'agit en quelque sorte de nous aider, de la même manière que la peinture aide à former notre sens esthétique, de nous aider à former et à éduquer notre jugement moral sur les choses politiques. Ce qui veut dire aussi qu'il s'agit, et là je rejoins ton propos, parce que ça me paraît essentiel, qu'il faut former notre jugement moral également sur la dimension sociale également l'association du mode d'organisation politique, etc., qui est le nôtre, et sur la société qui est la nôtre. Donc le problème, c'est peut-être deux manières de prendre le même problème, mais de deux manières différentes, si tu veux. C'est-à-dire, et on peut aussi, et je comprends tout à fait que tu puisses effectivement avoir une évaluation finalement négative de cette approche en termes de théorie des sentiments moraux, c'est-à-dire de la nécessité de former, si tu veux, le sentiment moral des citoyens à l'intérieur de notre démocratie, de les former et de former leur jugement pour qu'ils soient capables d'évaluer les institutions économiques, hein, puisque, je veux dire, l'institution économique n'est pas présupposée dans la théorie de la justice. Hein, il ne dit pas que, nécessairement, nos sociétés doivent être organisées sur la base d'un marché autorégulé, par exemple. Hein, je veux dire, il dit le contraire. Il dit qu'il y a plusieurs manières de penser. Donc, les institutions économiques, le jugement sur les institutions économiques n'est pas donné d'emblée, et le jugement sur les institutions politiques non plus, et je termine par ce point, puisque c'est central dans ton objection, le jugement sur les institutions sociales ou les fonctionnements sociaux, ou sur ce que c'est que le social, n'est pas non plus, mais en revanche, le but, c'est de nous donner des éléments pour former notre jugement. Mais c'est un jugement moral. Et ça me paraît important. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait paru important, à la mesure où cette tradition morale, qui était très présente dans la fille, tu le sais mieux quiconque, très présente dans la tradition française, hein, pensez à toutes nos grandes revues de philosophie française, c'est des gens pour lesquels la tradition morale est très importante, et cette tradition avait totalement disparu. Donc le retour, si tu veux, par la théorie de la justice, c'est de dire, d'ouvrir la porte à un développement possible dans le cadre de la philosophie française, de la philosophie morale.
Très bien. Je vais passer la parole à la salle, parce que sinon ça va. Mais juste, tu as raison, en fait, le point de notre discussion serait sur ce qu'on entend par morale. Giulio, mademoiselle. Pardon, non, allez-y d'abord. Non, allez-y d'abord.
Effectivement, probablement être plus rapide que Giulio.
On va voir. Vous êtes mis la pression.
Nord-américaine, alors ça va, mais très rapide. rapidement, merci pour l'exposé. J'avais une question sur votre lecture, j'aimerais une lecture pluraliste de John Rawls. Vous avez évoqué l'idée de la pluralité des conceptions raisonnables de la vie bonne, l'idée de réponse plurivoque, et ça m'a semblé une lecture très Isaiah Berlin de John Rawls, et que vous avez mentionné plusieurs influences, mais à moins que je me trompe, celle de Kant était absente, alors que le kantisme de Rawls, surtout en 71, est assez important. Donc, je me demandais si vous n'aviez pas négligé jusqu'à un certain point la dimension très fortement normative, celle du devoir-être, chez Rawls, qui prescrit une réponse un peu plus ciblée sur ce qui agit rationnellement que, par exemple, Berlin. Donc, je me demandais comment vous traitez la dimension kantienne ou du kantisme de Rawls, plus présent effectivement dans les années 70 que lors de l'entretien, mais quel est le rapport? C'est la première question. Puis la deuxième, c'est pour revenir un peu à ce que vous avez dit sur l'attention de la question des fondements, puis celle de l'application qui est effectivement très présente chez Rawls aussi. Je suis tout à fait d'accord que la question des fondements de la rationalité pratique n'est pas du tout la même que celle de l'application des principes, mais il me semble que il y a quand même chez Rawls, dans la définition même de la justice comme équité, as fairness, une réponse quant à la question de la redistribution. L'idée de définir la justice comme telle implique quelque chose de très pratique ou d'appliqué. Donc je me demandais à ce moment-là, s'il n'y a pas une tension entre la partie morale, les fondements, et la partie politique de la théorie de la justice de John Rawls.
Merci bien. Oui, donc la question effectivement était courte. Donc voilà. La réponse sera courte aussi. Sur la question du kantisme, vous avez raison. Je veux dire, il y aurait tout un. On pourrait en discuter pendant des heures, ça me paraît. Je n'ai pas omis, j'ai omis de mentionner Kant, mais vous avez raison de le rappeler. Vous avez aussi raison de rappeler que c'était plus présent en 71 que par la suite. Ce qui veut dire aussi, et c'est ce que je tirais de cette évolution, disons, de l'œuvre elle-même, que peut-être le kantisme de Rawls n'est pas aussi essentiel qu'on a voulu le dire. Ça, c'est ma réponse au premier point. Sur le deuxième point, qui est plus, à mon avis, plus fondamental, le rapport entre réflexion sur les fondements et l'application. Vous citez effectivement le second principe, ou le principe de différence, concernant les inégalités, et vous en déduisez effectivement qu'il s'agirait d'une philosophie appliquée. Non, pas nécessairement. Ça n'est pas parce que dans une philosophie politique, on parle effectivement, on réfléchit à la manière de déterminer un problème, parce que moi je lis ces principes comme un problème de détermination. La question de la détermination, c'est une question qui est fondamentale depuis le début de la philosophie, c'est une question qui est fondamentale pour Aristote. Le travail du philosophe, c'est de déterminer des problèmes, bien sûr des problèmes fondamentaux, mais de les déterminer. Donc ici, que s'agit-il de déterminer la possibilité même de penser une inégalité à l'intérieur d'une société, c'est-à-dire de la penser? Ça ne veut pas dire pour autant que le principe de différence vise à une application mécanique. Il s'agit, moi je le lis comme un effort pour déterminer suffisamment le problème de l'inégalité pour qu'on ne puisse pas dire que ce problème n'existe pas et n'a pas d'importance du point de vue de la philosophie politique. C'est déjà beaucoup. Si vous arrivez au point où vous vous dites que vous ne pouvez pas ne pas penser la question de l'inégalité et qu'il y a des moyens de la penser de façon déterminée, vous avez en quelque sorte rempli la fonction d'une philosophie politique fondamentale, c'est-à-dire l'objet inégalité ne peut pas être disqualifié comme étant relevant simplement, purement et simplement de l'idéologie. Il y a ce problème de l'inégalité est un problème fondamental pour penser la politique. La preuve, c'est que moi, John Rawls, j'ai pu déterminer suffisamment ce problème. Quant à dire qu'il s'agit que le résultat, si vous voulez, que le principe lui-même devrait être appliqué de façon mécanique, je ne le pense pas du tout. Je pense que, après, on peut discuter, on peut s'emparer de ce principe, essayer de le critiquer, essayer de voir comment on pourrait le faire fonctionner, etc. Mais cette dimension-là, en quelque sorte, pour moi, excède le champ de la philosophie. Je pense pas vous avoir convaincu sur ce point nécessairement, mais j'ai essayé d'aller dans ce sens-là. Voilà, je m'arrête.
Je voudrais formuler ma question plus rapidement que ce que j'ai. je te remercie beaucoup parce qu'on s'était échangé de mail il y a 3 mois, on s'était promis là de voir, de prolonger la présentation. Voilà. Et donc j'ai suivi ton conseil, j'avais lu attentivement, soigneusement l'entretien.
Merci.
Comme tu le dis très bien, ne peut pas réduire l'auteur, je l'ai connaissé tout à l'heure. Mais bon, quand même, il y a des propos de Rawls qui nous aident, je crois, à cerner. Je voudrais vraiment savoir comment tu la cernes, tu l'aboutis de la question de l'idéologie. Ou bien, je parle très vite parce que je n'arrive pas. La question de l'idéologie ou la question, je pourrais dire, de la celle qui m'intéresse ou qui intéresse peut-être, de, comment dire, la lecture qu'on a quand on est éduqué par certains auteurs, comme dans mon cas, je peux l'avouer, la teneur en philosophie et la teneur en politique de la perspective de Rawls. Alors, tu disais justement que Rawls a deux objectifs, de viser la préservation des institutions démocratiques et la compréhension du monde. Tu le dis très bien, il veut proposer une théorie. Et justement, dans ce livre, on trouve des expressions très, très intéressantes comme « Il est important de conduire la discussion politique au niveau le plus fondamental. » La question se posant alors, qu'est-ce que le niveau le plus fondamental? D'ailleurs, je vois très bien, je dis tout de suite, que les côtés raisonnables de Rawls, la pluralité des biens s'impose à nous tous. En même temps, je dois dire tout d'abord, pour ce qui concerne la teneur en politique de la perspective de Rawls, qu'en s'imposant sur le terrain du raisonnable qui est tout à fait légitime, je pense à Rawls, peut-être on pourrait dire qu'il se pose sur le même plan, quand même répugner à répondre à des questions de politique particulière pour quelqu'un qui veut rester au niveau raisonnable, c'est déjà, ça pose des problèmes. Et donc, dans ce même passage, par exemple, il dit, toujours pour l'action de teneur en politique, que je considère que la philosophie politique s'adresse aux citoyens et non pas au gouvernement. On pourrait dire au législateur. Déjà, c'est là, ça détermine la perspective, je trouve, beaucoup. Et surtout, ce qui m'intéresse par rapport à ces deux objectifs, c'est-à-dire préservation des institutions démocratiques et la compréhension du monde, c'est comment il considère la dialectique entre ce qu'il appelle la doctrine de la justice politique et la doctrine compréhensive. Il dit qu'il faut les séparer, les biens et les choses. Or, la question se posant, est-ce qu'on peut les séparer entièrement ou est-ce que lui, il les fait? Et alors là, par exemple, là, c'est justement un propos que je voudrais que vous m'expliquiez quand il dit j'en suis venu à l'idée que ça ne peut tout simplement et jamais être le cas dans une société démocratique, l'éthique des sociétés exigée par les principes du livre. Donc, Rawls, après tout, exige ou présuppose une certaine conception du bien. Voilà qu'on revient à la doctrine, peut-être à la généalogie obésienne que tu refuses, mais il me semble pour Rawls, ou en tout cas au présupposé. Et je pense qu'après, encore, là, si tu veux, là, la perspective se précise en s'aggravant, peut-être, parce que quand il en vient à préciser qu'est-ce qu'il entend pour l'enseignement de la philosophie politique, il dit « J'essaie de faire connaître la tradition des pensées démocratiques qui est présente dans notre culture politique aux jeunes pour voir comment la reformuler au niveau de notre temps. » Et je dirais que si l'autre problème est la compréhension du monde, on a déjà décidé qu'éduquer à la compréhension du monde, c'est éduquer à la compréhension de la tradition démocratique, ce qui me paraît quand même circonscrire l'interrogation sur les problèmes humains, et que même pour s'en tenir au fait, si tu veux, à la préservation des institutions démocratiques, il faut supposer que pour préserver les institutions démocratiques, toute la conception de notre civilisation, ou toutes même les vertus dont nous avons besoin, peuvent être préservées et éduquant les jeunes à la tradition démocratique. Voilà, je pense qu'on peut s'en tenir à une interrogation qui est assez classique. Peut-être dans certains milieux, et s'en tenant au propos de Rawls, et donc j'aimerais savoir comment tu m'expliques comment Rawls formule sa conception de philosophie et de politique, et je suis allé très au-delà, donc j'ai confirmé les préjugés. Je suis désolé, mais notre échange avait été intéressant, donc aujourd'hui.
Oui, non, mais je te remercie. Je veux dire, non, puis c'est très bien, c'est l'occasion de préciser dans un format court, puisque je pense qu'il y a. Daniel va parler dans 2 minutes, donc voilà, la contrainte est bonne, donc ça permet d'aller vite et à l'essentiel. Sur la démocratie, ma réponse elle est très simple. Effectivement, je pense qu'il s'agit d'un présupposé en quelque sorte de la pensée de Rawls. Cette démocratie constitue l'horizon à l'intérieur duquel il développe sa pensée politique. Donc on peut considérer que c'est une limite. Moi, je considère personnellement que c'est aussi l'horizon à l'intérieur duquel je développe mon travail et mon activité dans le champ de la philosophie politique. Donc, de ce point de vue-là, je suis parfaitement en accord avec Rawls. Donc, je réponds de cette manière à ce point. Très rapidement aussi, pas d'engagement du philosophe, pas de jugement politique en tant que philosophe. C'est ça que je voulais dire. John Rawls n'intervient pas dans le débat politique en sa qualité de philosophe, en tant qu'auteur de la théorie de la justice. Il laisse cette chose-là de côté, il dit, si je le faisais, ça serait de l'idéologie. Il est évident que John Rawls, citoyen, est intervenu dans le débat politique américain, qu'il a aussi, il est intervenu quand il avait des responsabilités à Harvard pendant la guerre du Vietnam, sur des points très précis de mesures de conscription qu'il jugeait injustes, donc il a pris ses responsabilités, mais il l'a fait en tant que citoyen et pas en tant que philosophe, sinon ça aurait été de l'idéologie. Il n'avait pas besoin de la théorie de la justice pour prendre les positions politiques qu'il a prises. Et autre élément sur ce point, derrière cette théorie de la justice, ou la raison qui explique que cette théorie de la justice ait eu un tel succès, les circonstances politiques sont bien évidemment déterminées. C'est que cette théorie de la justice a été considérée comme une réponse à un certain nombre de questions politiques qui se posaient dans le contexte américain des années 50 et 60 et qui n'avaient pas trouvé de réponse et d'élaboration théorique. Et notamment, quand on lit la théorie de la justice aujourd'hui hors du contexte, et c'est le propre de toutes les œuvres philosophiques du passé, on les lit hors de leur contexte. Mais c'est évident qu'on va s'intéresser, par exemple, à la théorie des biens premiers, je l'ai évoqué tout à l'heure, on va s'intéresser aux problèmes de justification, c'est-à-dire on va s'intéresser à toutes sortes de questions générales, alors que ce qui intéressait les Américains qui découvrent la théorie de la justice en 71, c'est deux choses. Les propos de Rawls concernant l'objection de conscience et les propos de Rawls concernant la désobéissance civile. Hein, donc ici, une lecture en contexte des œuvres est parfois utile. Hein, donc, alors, voilà sur ce point. Autre point, alors, j'ai évacué très rapidement ce qui me paraissait, disons, les questions auxquelles il était le plus facile de répondre. La question de fond que tu posais concerne la dimension, finalement, le statut, est-ce que Rawls, dans la théorie de la justice, est véritablement fidèle à son propos? Le propos de Rawls, ce serait de permettre, en quelque sorte, de partir du fait du pluralisme, c'est-à-dire de considérer le fait que nous n'avons pas tous les mêmes conceptions de la vie bonne, et à partir de ce fait du pluralisme raisonnable, d'essayer de déterminer des règles qui seraient des règles nous permettant de penser de façon commune le bon fonctionnement des institutions économiques, sociales et politiques qui sont les nôtres. Ça c'est le projet. Hein. C'est sur le papier ce que l'on annonce quand on fait un projet et puis ce que l'on réalise. Donc ce que tu dis, c'est finalement Rawls n'a pas réalisé ce qu'il a dit et essaie de pointer un certain nombre d'éléments qui consisteraient ou qui iraient dans le sens ou qui nous conduiraient à penser que finalement Rawls, non, n'est pas fidèle au fait du pluralisme, mais nous propose une conception déterminée de ce que devrait être, je reviens à l'argument sur le kantisme, de ce que devrait être la vie bonne à l'intérieur d'une société démocratique. Ça, c'est le cœur de ton objection à Rawls. Rawls n'est pas fidèle à ses principes, n'est pas fidèle à cette idée que le point de départ de la pensée politique, ça doit être de tenir compte du fait du pluralisme, d'un pluralisme raisonnable. Il ne le fait pas, il nous impose en quelque sorte une certaine vision, conception de la vie bonne, et il nous l'impose d'autant plus fortement qu'il est kantien, hein, pour revenir à la première réponse et question. Ma réponse sur ce point, et elle sera très brève, hein, parce que je crois qu'on a épuisé le temps qui nous était imparti, hein. La réponse, elle est très brève. Cette objection a été formulée, a été adressé à Rawls lui-même, il en a tenu compte, donc il a considéré effectivement que sa théorie de la justice effectivement n'était pas entièrement fidèle au projet qui était le sien, et il a donc modifié les termes dans lesquels il a formulé le problème du libéralisme politique, et c'est la raison pour laquelle il a publié en 93 un ensemble d'articles intitulé « Libéralisme politique ». Cette évolution centrale dans la théorie de Rawls répond à la question que tu poses, à savoir, a-t-il ou non été fidèle à cette intuition initiale? Non, mais, enfin, ajouter simplement, il n'a pas été fidèle à cette intuition parce que c'est très difficile de tenir compte et de penser politiquement à partir du fait du pluralisme raisonnable. Naturellement, on pense à partir de sa propre conception de la vie bonne, à partir de sa propre conception de la civilisation, etc. Mais ça ne veut pas dire que le projet lui-même et le point de départ de la philosophie politique n'est pas valide. Bon. Rawls, de ce point de vue-là, n'a pas été le premier philosophe et ne sera pas le dernier philosophe à ne pas avoir fait ce qu'il voulait faire et à ne pas avoir, disons, déterminé les principes d'une manière qui soit en tout point fidèle aux principes.